Il est là, Christian Page, notre expert des mythes et complots. Salut!
Un expert en mythes et complots. En fait, moi, je suis un expert en tout et spécialiste en rien.
Ah non, non, ne te sous-estime pas.
Salut Bernard!
Salut, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Alors, on va parler d'abord, c'est quoi ça? Combustion humaine spontanée?
Ben écoute,
combustion humaine, ça me fait peur.
C'est normal d'avoir peur quand on entend ces mots-là. Imagine-toi, Bernard, tu es assis derrière ton micro et soudain, sans raison, tu t'enflammes comme une torche et en quelques minutes, ton corps est réduit en cendres.
Ben voyons.
Ça te semble invraisemblable et c'est pourtant de ça que l'on parle, c'est ce phénomène de la combustion humaine spontanée. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire qu'il y a des cas qui ont été rapportés dans la littérature, mais jusqu'à maintenant, il ne faut pas se le cacher, sur le plan biologique, anatomique, il est impossible qu'un corps puisse s'enflammer de lui-même de cette manière-là. Et c'est une grande problématique puisque la littérature rapporte des incidents où des gens auraient pris feu, auraient brûlé en quelques minutes et leur corps aurait été réduit en cendres. Et de l'autre côté, on a le milieu scientifique qui nous dit qu'un tel phénomène est a priori impossible. Et pourtant, les cas continuent de se multiplier sans qu'on ait pour autant une explication. Et c'est de ça que je veux te parler parce qu'on a une nouvelle qui est quand même assez surprenante. Et cette nouvelle nous vient de Grande-Bretagne. C'est cette semaine, en début de semaine, la police métropolitaine, donc la police de la ville de Londres, a émis un communiqué. Elle est à la recherche de témoins pour un incident qui s'est produit le 17 septembre dernier. Alors, je te rappelle un peu ces événements dont les policiers sont un peu confus. On est le 17 septembre dernier, il est à peu près 13 heures. Il y a un homme, un certain John Nolan, il s'agit d'un homme de 70 ans. Il est originaire d'Irlande. Et voilà qu'il marche tranquillement dans un quartier du nord de Londres lorsqu'il s'enflamme comme une torche. Et ça, on est en plein milieu de la journée. Donc, rapidement, des passants vont intervenir, réussir à éteindre les flammes de M. Nolan. Mais évidemment, notre pauvre septuagénaire est sur le sol, inconscient. Les policiers interviennent. On va héli-transporter M. Nolan dans un hôpital du centre de Londres où, malheureusement, on va conclure à son décès.
Et c'est là... Spontanément, Christian, spontanément. Là.
Voilà.
Je
et c'est là que la question commence à se poser.
Le gars, il s'est aspergé d'essence puis il a mis le feu à ses vêtements.
C'est justement ce que l'on ne trouve pas. C'est-à-dire que les policiers enquêtent sur cette histoire et tu comprends qu'avant de sortir dans les médias pour faire un appel au public, on a exploré à peu près l'ensemble de toutes les hypothèses. Donc, on sait que M. Nolan n'avait pas son corps, ses vêtements, il n'y avait pas d'accélérant. Donc, il s'était pas arrosé avec un produit quelconque. Notre bonhomme en question n'avait pas de cigarette, d'allumette sur lui. En fait, il n'y avait pas dans ses poches aucun objet qui aurait pu s'enflammer et mettre le feu à ses vêtements. Et on sait que M. Nolan était seul au moment de l'incident et qu'il n'a pas été au centre d'une altercation avec qui que ce soit dans les minutes qui ont précédé l'événement. Donc, notre bonhomme déambule sur la rue et pour une raison qui, pour l'instant, demeure inexplicable, M. Nolan a pris feu. Donc, ses vêtements se sont enflammés comme une torche. Évidemment, il est décédé des suites de ses blessures. Alors, au moment où on se parle, évidemment, la police métropolitaine ne dit pas dans son communiqué que M. Nolan a été victime de l'un de ces phénomènes très controversés de combustion humaine spontanée. Mais disons qu'à mi-mot, on les laisse un peu sous-entendre. Et là, on a déjà prévu pour le 13 mars prochain une audition, parce qu'en Angleterre, lorsqu'il y a un décès de cette manière-là, il y a une enquête publique du coroner. Donc, cette enquête publique du coroner va se tenir en mars prochain. Mais au moment où on se parle, ni les services de police, ni les services d'incendie, les enquêteurs en incendie qui ont été appelés au chevet de M. Nolan n'ont pu trouver la moindre explication sur la situation, comment M. Nolan a pu soudainement prendre feu de lui-même. Alors, à mi-mot, on parle de combustion humaine spontanée. Attendons pour voir ce que les autorités vont conclure. Mais on comprend que la police métropolitaine est un peu dans l'embarras. Et là, elle demande à toute personne qui aurait été témoin de l'incident de se présenter pour essayer d'avoir une explication à ces événements qui, pour l'instant, demeurent inexpliqués.
Mystérieux. Ouais. Parlant de mystère, la tombe du Père Noël aurait... On aurait trouvé la tombe, le vrai Père Noël, là. Hein, Christian?
Et là, Bernard, évidemment, ça peut paraître une blague en cette avant-veille de Noël, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est une nouvelle qui est sortie il y a quelques jours. Ce sont des archéologues turcs qui travaillaient dans une petite église à Demre. Hein, ça se trouve dans la province d'Atalia, en Turquie. Donc, ces archéologues faisaient des travaux. Et là, voilà que sous les fondations, ils ont découvert un tombeau. Et dans ce tombeau, évidemment, on a trouvé des restes humains. Alors, évidemment, comme on sait qu'il y a toute une légende qui entoure cette petite église de Demre qui est associée à nul autre que Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas, c'est le personnage, c'est un saint du 4e siècle qui a inspiré le personnage du Père Noël. Alors là, évidemment, on se demande si ce qu'on vient de découvrir n'est pas la tombe de ce Saint-Nicolas. Bon, il faut dire au départ qu'il y avait une légende voulant que le corps de Saint-Nicolas, que ses ossements, avaient été éventuellement volés par des vandales, transportés en Italie, où il y a justement une basilique Saint-Nicolas. Mais cette histoire de vol d'ossements transportés en terre étrangère est toujours demeurée invérifiée et invérifiable. Et là, voilà qu'avec cette découverte, on remet en question cette version un peu mythique ou légendaire, et on en est revenu un peu à la case départ. Et si cette tombe sous cette petite église de Demre était ceux de Saint-Nicolas? Alors, pour l'instant, la sépulture correspond à un ensevelissement, une inhumation du 4e siècle. Les
os OK, donc sont... les dates, la période dates historique, la période historique concorde.
Voilà, okay. Donc on a un lieu d'inhumation qui correspond à ce à quoi on est en droit de s'attendre pour une inhumation du 4e siècle. Les ossements semblent, on est toujours en attente des datations carbone 14 et bien sûr des profils ADN si on peut les obtenir parce qu'on parle quand même ici d'ossements qui sont vieux de 1500 ans. Mais on est en attente de tout ça. Mais pour l'instant, tout semble concorder. Évidemment, l'autre hypothèse, c'est qu'il pourrait s'agir des restes d'un moine qui était ou qui aurait occupé cet endroit aux alentours du 4e siècle. Évidemment, sur les eaux, ce n'est pas inscrit. Nous sommes les eaux de Saint-Nicolas. Mais évidemment, tout semble correspondre. Évidemment, cette histoire qui sort mystérieusement quelques jours avant Noël fait un peu fantasmer et rêver. Et pourquoi pas, peut-être, la tombe de Saint-Nicolas.
C'est peut-être bon pour l'industrie touristique du coin. Hein?
Ouais, c'est sûr.
D'autant plus que la Turquie, ces temps-ci, est en manque de touristes.
Alors, voilà, c'est sûr que
ça pourrait aussi procéder de d'autres considérations que des seules considérations religieuses.
Ouais, tu as tout compris. C'est sûr que la Turquie n'est pas sur la liste numéro un des destinations des touristes à l'échelle planétaire.
En effet. On va s'arrêter parce qu'au retour, tu vas nous parler... pas des prédictions de 2018, mais des prédictions de 2017.
Voilà, on revient jamais sur les prédictions des années précédentes. Faisons-le, je me souviens.
Oui, c'est ça, on va le faire. Et on va parler un peu de la NASA également et des déclarations de Marc Garneau, l'ancien astronaute, qui a parlé très ouvertement à notre microphone de vie extraterrestre. C'est très intéressant, dans un instant après la pause. De retour avec Christian Page et nos mythes et complots. Christian, parle-nous de ce projet caressé par certains experts de la NASA notamment, d'envoyer une sonde vers Alpha du Centaure. Pourquoi Alpha du Centaure?
Voilà, et ça, c'est une nouvelle qui est un peu surprenante. Il y avait quelques jours un gros congrès qui se tenait aux États-Unis. C'était le congrès de l'Union américaine de géophysique. Et on a profité de cette occasion pour annoncer un projet qui devrait éventuellement être mis en place en 2069, donc correspondre au 100e anniversaire de l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune. Et l'idée est d'envoyer une sonde vers l'étoile Alpha du Centaure. Donc, Alpha du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de notre propre système solaire. C'est notre voisine. Elle est située à 4,2 à peu près années-lumière de la Terre. Et pourquoi Alpha du Centaure? Parce qu'on a découvert au cours des dernières années qu'il y avait autour de l'étoile Alpha du Centaure une, sinon peut-être plusieurs, planètes identiques à la Terre. Donc, elles se trouvent dans une bonne zone, elles gravitent autour de l'étoile, elles sont dans une bonne zone pour avoir une température qui permet de l'eau à l'état liquide, l'une des conditions essentielles au développement d'une vie organique telle qu'on la connaît. Donc, L'idée, c'est qu'on va envoyer des sondes vers Alpha du Centaure et l'objectif, c'est de pouvoir atteindre l'étoile dans une période d'à peu près 40 ans. Donc, nos sondes en question arriveraient, se mettraient en orbite autour de l'étoile aux alentours de l'année 2109. Le gros hic dans cette histoire-là, Bernard, c'est qu'on n'a pas la technologie pour faire ça.
Non, mais d'ici 2069, on peut penser qu'on pourrait l'avoir.
Oui, bien sûr. Donc, on est ici dans un gros gros scénario d'anticipation. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, si on regarde l'étoile en question, l'objet que l'on a fabriqué sur Terre, qui s'est déplacé le plus rapidement à ce jour, est une sonde, la sonde Helios, qui avait été fabriquée par la NASA et l'Allemagne. Et cette sonde-là a atteint à un moment donné une vitesse de 250 000 km à l'heure. 250 000 km/h, ça veut dire qu'elle aurait franchi la distance de la Terre à la Lune dans à peu près 1h20, si on regarde, là, grosso modo. Or, à cette vitesse qui nous semble vertigineuse, cette vitesse, la sonde mettrait 18 000 ans à se rendre autour d'Alpha du Centaure. Donc, 18 000 ans à la vitesse de 250 000 km à l'heure pour atteindre Alpha du Centaure. Et à ce jour, c'est ce que l'on a fabriqué de plus rapide. Alors, tu comprends qu'il faut... Là, l'échelle est grande. Il faut passer de 18 000 ans à 40 ans. Donc, tu comprends qu'on n'a pas encore cette technologie. Bien sûr, on anticipe que d'ici 2069, on aura peut-être développé des engins qui auront des systèmes de propulsion qui leur permettront d'atteindre le dixième de la vitesse de la lumière. Et là, en anticipant cette progression technologique, on devrait donc être en mesure d'envoyer des sondes vers Alpha du Centaure qui, sur une période d'à peu près 40 ans, devrait se mettre en orbite autour des planètes semblables à la Terre et nous transmettre des images. Et peut-être que ces mondes sont habités de créatures vivantes, sinon peut-être d'une civilisation intelligente.
Ce qui met la table pour la déclaration du ministre Marc Garneau, ancien astronaute, qui, à notre microphone plus tôt cette semaine, et à ma connaissance, puis je l'ai tweeté d'ailleurs, on va l'entendre dans un instant, mais à ma connaissance, Christian, c'est la première fois qu'un haut responsable politique canadien allait aussi loin dans la reconnaissance qu'il y a probablement une vie extraterrestre. On va écouter donc Marc Garneau, ministre canadien des Transports.
Que moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de vie dans notre univers, qu'il y a beaucoup de civilisations. La question est la suivante. Est-ce qu'ils sont venus nous visiter? Je suis convaincu, avec l'énormité, la grandeur de notre univers et toutes sortes d'autres systèmes solaires qui doivent supporter la vie, qu'il y a de la vie partout dans notre univers. Mais de là à dire qu'on a été visité, ça, c'est une autre question.
Fascinant, non?
Oui,
enfin, non, moi, je l'ai trouvé assez courageux de dire ça parce que, d'ailleurs, tu regardes sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se foutent de sa gueule puis qui se moquent de cette déclaration-là. Mais moi, je l'ai trouvé assez courageux. D'ailleurs, elle s'appuie sur les faits. Là. On s'entend
Et on est d'accord que la position qu'adopte Marc Garneau, c'est quand même la position à peu près qui est adoptée par l'ensemble de la communauté scientifique. Quand on parle des extraterrestres, et Marc Garneau le mentionne bien, il en parle d'un point de vue exobiologique, c'est-à-dire la vie ailleurs dans l'univers. Et le consensus scientifique maintenant, parce qu'à toutes les fois où on met en orbite de nouveaux satellites, de nouveaux télescopes, au fur et à mesure où on écoute l'espace et qu'on le regarde, cet espace, on découvre que l'univers est non seulement plus vaste que l'on le croyait, mais on multiplie les mondes habités et au moment où on se parle, on est à peu près à 3000 exoplanètes de découverte. Une cinquantaine de ces mondes seraient potables pour être des planètes semblables à la Terre, dont au moins 10 reconnues comme étant des planètes semblables à la Terre. Donc, Marc Garneau ne va pas à contresens de l'opinion scientifique.
Oui.
Mais ce qu'il mentionne, et il est là toute la problématique, est-ce que cette vie extraterrestre qui certainement doit pulluler dans l'univers, est-ce que ces vies extraterrestres nous ont rendu visite? Et là, c'est la problématique du phénomène des ovnis. Souvent, lorsque les gens parlent de ce phénomène des objets volants non identifiés, et on en a nous-mêmes parlé en début de semaine à propos de ce nouveau programme qui avait été instauré par le Pentagone pour enquêter sur les ovnis, Les gens font souvent ce raccourci en disant « Il y a tellement de vie dans l'univers que je n'ai pas de problème à croire aux ovnis. » Attention, le problème n'est pas de savoir s'il y a de la vie dans l'univers. Le problème est de savoir si cette vie extraterrestre peut nous rendre visite ou si elle nous a rendu visite.
Voilà.
Et au moment où on se parle, malheureusement, il faut bien l'avouer, quelle que soit l'étendue des programmes qu'on a mis en place, on n'a jamais réussi à produire une preuve concrète irréfutable qui démontrerait ces visites extraterrestres.
Voilà.
Donc, à ce sujet-là, on est toujours dans le peut-être, mais pour ce qui est de la vie ailleurs dans l'univers, comme le dit Marc Garneau, c'est une espèce de consensus scientifique. La vie doit pulluler dans l'univers.
Il nous reste une minute, vraiment bien comptée, pour nous parler des prédictions de 2017 qui ne se sont pas réalisées. Donne-nous-les en rafale ou donne-nous quelques exemples particulièrement parlants. Mettons.
Oui, c'est vrai, parce qu'à toutes les fois où on parle des prédictions, on parle tout le temps des prédictions à venir, mais on regarde jamais celles qui ont été faites. Donc, en 2017, je te rappelle, Bernard, qu'on a quand même passé à travers 4 fins du monde. On nous avait prévu une fin du monde le 1er janvier, une le 20 janvier, une le 21 août et une autre à la frontière du mois de septembre et octobre. Donc, 4 fins du monde qui ne se sont pas produites. D'autres grandes prédictions faites par les voyants internationaux. On nous avait annoncé l'effondrement de l'Europe et que l'Italie et le Danemark allaient se retirer de l'Union européenne, ce qui ne s'est pas produit. Durant l'été 2017, les États-Unis devaient traverser une grande période de sécheresse pendant que l'Europe serait prise avec des inondations. Ça, malheureusement, ça se produit toutes les années. Le Parlement britannique serait ravagé par des flammes, ce qui ne s'est pas produit. Et parlant pour ma propre paroisse, Bernard, aucun médium français n'avait prévu la mort de Johnny Hallyday.
Oh, pauvre toi. Christian, je dois te remercier parce que je veux me garder un petit peu de temps pour remercier nos auditeurs.
Ça
je
me fait plaisir,
que
Bernard.
Tu es notre responsable des mythes et complots. Tu vas nous revenir dans la nouvelle année. Merci. Joyeux Noël à toi.
À toi aussi.
Joyeux Noël à vous, les auditeurs. Merci d'être là. C'est vraiment un privilège d'être avec vous à chaque jour. J'aime beaucoup vous parler, j'aime beaucoup échanger avec vous, j'aime notre complicité grandissante. Et parlant de complicité, j'en ai une très belle avec mon équipe, Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau, Larry Dufresne. On travaille ensemble pour préparer cette émission. Je vous aime beaucoup, je vous souhaite un joyeux Noël, belle équipe. Et encore une fois, joyeux Noël à vous les auditeurs. Bonne et heureuse, on va se reparler dès le 8 janvier prochain. Soyez prudents sur les routes. Allez.